France Culture.
Les nuits de France Culture.
À travers son immense histoire, la tapisserie a connu son lot de fresques extraordinaires. La tapisserie de Bayeux, par exemple, brodée au XIe siècle, représente pas moins de 623 personnages, décrivant à la manière d'un roman, d'une bande dessinée ou même d'une série, 2 ans d'événements qui se terminent avec la fameuse bataille de Hastings, en 1066. Autre monument de la tapisserie française, les tapisseries de l'Apocalypse sont une commande de Louis Ier d'Anjou au XIVe siècle. Représentant l'Apocalypse selon saint Jean, ces immenses tapisseries de 6 x 140 mètres n'ont pas manqué de marquer l'histoire de l'art et d'impressionner encore jusqu'à aujourd'hui. C'est d'ailleurs de cette œuvre massive et spectaculaire que le créateur de tapisserie Jean Lursa tire l'inspiration principale de son propre magnum opus, le Chant du Monde. Créée et tissée sur plus de 10 ans, les 10 tapisseries qui constituent cette œuvre majeure de la tapisserie mondiale se découpent en 2 parties. La première décrit l'horreur atomique et ses ravages proprement apocalyptiques. La deuxième, elle, anticipe une période de paix, née justement de la honte de nos propres actions. Dans cet entretien donné quelques mois avant sa mort, en octobre 1965, Jean Lursa se livre au micro de Marie Albe au sujet de son œuvre, qui faisait alors le tour des grandes villes françaises avant de rejoindre, après la mort de l'artiste, sa maison définitive à Angers. Un entretien diffusé pour la première fois le 31 décembre 1965 sur Marseille Provence.
Jean Lursa, voici enfin le Chant du Monde à Marseille, cette suite de 9 tapisseries dont nous parlions et que nous n'espérions jamais voir à Marseille alors que d'autres villes de France avaient eu le privilège de l'admirer. Est-ce que le cadre où elle est présentée, ces salles du musée Longchamp à Marseille et surtout le montage son et lumière par lesquels vous-même expliquez cette suite vous convient? Est-ce qu'elle comble vos attentes et vos espérances?
Écoutez, serions les questions, c'est-à-dire emplacement, ce qui est spécifiquement marseillais. Il n'y a pas de doute que ces salles sont excellentes. Si elles avaient été bénies des dieux, elles n'y auraient pas eu 100 marches pour y parvenir, mais enfin, les dieux se dissimulent souvent dans les nuages. J'en ai eu dans ma vie, moi, après 3 guerres, beaucoup de preuves. Bien. Ceci dit, présentation, bien. Une chance, Monsieur Laurent, conservateur du musée d'Annecy, qui a inventé en somme cette présentation son et lumière, c'est-à-dire musique, l'artiste parle, la lumière se promène sur les différents panneaux et fait valoir tel ou tel fragment du dit panneau. C'est une trouvaille de tout à fait premier ordre, et je crois que c'est une route ouverte, c'est une avenue qui s'ouvre. Certains esprits très fins, très dragés de luxe disent « nous n'avons pas besoin d'explications », etc. Je ne suis malheureusement, moi, qu'un gros bonbon, pas du tout de luxe. Dans les choses que j'aborde pour la première fois, j'aime beaucoup qu'on me guide, parce que sans ça je trébuche, et quelquefois même j'attrape des entorses, c'est-à-dire que je ne comprends pas très exactement. Quand on présente ses œuvres au public, qu'elles soient musicales, théâtrales ou picturales, etc., il est évident qu'on cherche à être compris. Il ne faut pas faire le malin devant ses semblables. Tous les hommes sont à connaissance limitée. Si on me demande, moi, la naissance de Coscia, qui est pourtant un peintre extraordinaire italien de la Renaissance, je ne la saurais pas, je sais l'époque à peu près. Si on me demande ce que signifient tous ces énormes calculs pour envoyer des projectiles dans la Lune, je répondrai, je n'en sais pas plus que le garde champêtre du coin à Saint-Céré où j'habite, ville de 3000 habitants, et sans gare. Par conséquent, il faut considérer qu'il y a dans cette espèce de spectacle, ce show, comme disent les Américains, lumière, l'artiste qui parle, une musique qui accompagne et qui accompagne bien et spirituellement la présentation. Eh bien, c'est une invention et je répète, c'est une allée qui s'ouvre. Laurent d'Annecy a ouvert la voie et elle sera suivie, très certainement.
Jean Lursa, vous avez dit que ce Chant du Monde n'était pas terminé. Y a-t-il un 10e chant en préparation?
Ah non, pardon, je crois que j'ai là déjà 7 ou 8. J'appelle Chant du Monde un ensemble de tapisseries. Ce qu'on appelle en tapisserie, c'est le terme technique, une tenture. Une tenture peut avoir 150 tapisseries, elle s'appelle tenture, si c'est le même sujet qui est traité. Or, j'ai traité d'un seul sujet, d'abord le monde, que je trouve beau, malgré ses imbécilités. Ces guerres imbéciles. Ces famines imbéciles qui rongent des coins pendant que les autres, ailleurs, d'autres parties du monde, crèvent de vitamines, de graisse et de cirrhose du foie. Eh bien, j'explique un peu dans tout ça. Le champ du monde, il est, ce monde, il est splendide et en même temps, il est rempli de fausses notes. La fausse note, Hiroshima, c'est pas beau. Moi, je me sens très responsable de ça, parce que devant des drames aussi abominables qu'Hiroshima ou que l'incendie de Dresde ou que le bombardement d'Amsterdam par M. Hitler, tout ça, ce sont des choses dont nous devons nous sentir tous également responsables. On n'a pas le droit de dire « moi je ne suis solidaire de l'homme que pour les bonnes choses et pour le reste je me défile ». Alors ce champ du monde, donc, je vous dis, c'est en somme le grand péril que court la civilisation et la dignité de l'homme, la bombe atomique. C'est vraiment une horreur. Je suis heureux d'ailleurs maintenant d'être, si j'ose dire, et surtout faites bien valoir à la radio mon sourire, que le pape a rejoint nos rangs. Nous sommes le pape et moi d'accord maintenant. La bombe atomique, c'est une infection de l'âme de l'homme. C'est un manque de dignité abominable. Et je suis persuadé ici d'autre part qu'on surmontera ça, parce que tout d'un coup on aura un sentiment de honte. Et qu'on lâchera ça. Et alors, à ce moment-là, la désintégration de l'atome et les sources d'énergie que cela comporte, cette désintégration va amener pour l'homme des moyens d'action sur la nature, des moyens de fertilisation du sol, des moyens de transmission de forces d'énergie, de nouvelles, etc. Tel que ça finira quand même par un fait positif, n'est-ce pas ? Alors, dans ma tapisserie, il y a deux parties. D'abord, une cinquantaine de mètres sur l'horreur atomique, ce que De Gaulle a appelé d'ailleurs l'épouvante atomique. Vous voyez, je suis d'accord aussi avec De Gaulle. L'épouvante atomique, elle est surmontée et on arrive à la paix. Et bien, avec la paix, je suis d'accord avec Jésus-Christ. Vous voyez, on ne travaille qu'entre grands dans ma famille. Jésus-Christ a dit « paix entre les hommes de bonne volonté ». Eh bien, moi, je prêche la paix. Et alors, dans la seconde partie de cette grande tenture, je prêche la paix. C'est-à-dire la poésie, la conquête de l'espace, la beauté des phénomènes naturels et quand même cette chance que nous avons d'être sur Terre, parce que je ne considère qu'être sur Terre, c'est pas quand même un malheur. Nous avons, nous, hommes, une position un peu navrante vis-à-vis du monde. On le considère comme une source de dollars ou de spéculation, mais d'autres le considèrent comme un phénomène devant lequel on doit s'inquiéter avec respect, révérence et même amour. Je suis de ces enfants naïfs, je m'en excuse. Je suis jeune, je n'ai que 73 ans.
Stop. Le champ du monde, évidemment, c'est une trop grande chose pour que nous ne soyons pas étendus longuement, que vous ne vous soyez pas étendus longuement sur cette œuvre, maître. Mais je voudrais que vous nous parliez un petit peu des lithographies qui sont là-bas.
Ah oui, oui, là c'est un cas particulier, marseillais. Vous aviez un homme exceptionnel à Marseille. Et un homme à qui on doit rendre hommage dans cette exposition, c'est ce lithographe. Je suis de nouveau d'accord avec un des grands. Picasso le considère comme un type extraordinaire. Moi je le considère aussi comme un type extraordinaire, et maintenant je fais toutes mes lithos avec lui. Alors j'ai tenu à ce qu'il soit à côté de moi, comme ça, comme un camarade de travail, si vous voulez. Il y a d'autre part aussi des céramiques venant de Perpignan. Il y a une très bonne poterie à Perpignan, et qui est dirigée par... j'allais dire un jeune homme, puisqu'il a mon âge, Firmin Bobby, et j'ai tenu aussi à ce qu'il y ait un certain nombre de ces céramiques, parce que c'est un accompagnement, si vous voulez, du travail monumental que je fais avec ces tapisseries, et ça c'est un peu plus proche de l'humain, c'est-à-dire de l'objet familier.
Autres œuvres de vous proches, plus proches tout au moins, sont celles qui seront exposées dans le même temps que l'exposition de la suite Le Chant du Monde au musée Longchamp à la galerie Grégoire rue Bretagne.
Ah bah oui, à la galerie Grégoire, là ce sont des tapisseries qui sont pour l'usage journalier, si je veux dire, sur les individus. Il est certain qu'une grande tapisserie comme ce Chant du Monde, qui, terminée, aura au moins 500 mètres carrés, 125 mètres de long, vous représentez, c'est pour l'usage, si j'ose dire, grand public, enfin, musée, grosses institutions, etc., n'est-ce pas ? C'est pas une chose à vendre, c'est ma dernière folie. Bon. Mais il faut quand même... On ne fait pas tous les jours une tour Eiffel, je m'excuse. Mais il faut faire des objets familiers. Eh bien, les tapisseries que j'ai exposées chez Grégoire sont des tapisseries qui sont destinées à des appartements et pour vous, pour moi, pour mon cousin, contrôleur des contributions directes, pour mon autre cousin, professeur à l'université de Strasbourg, etc., etc. Et pas.
Merci, maître. Voilà.
C'était un entretien avec Jean Lursa présentant Le Chant du Monde à Marseille, au micro de Marie Albe, diffusé pour la première fois le 31 décembre 1965 sur Marseille-Provence.